Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal présenté par Noéla Luzitu Kabambi. Plus de 100 morts, tous victimes des inondations à la suite de la pluie qui s'est abattue hier soir sur le territoire de Calais au sud Kivu. Sans oublier des dégâts matériels importants. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'élu de Calais est vital. Banyu Esize lance un appel à l'aide au gouvernement provincial et central pour les rescapés qui ont tout perdu. Des combats entre les groupes armés Codeco et Zaïre depuis mercredi ont déjà fait 38 morts au village Aforior-Wot dans le territoire de Mahagi. La société civile de Mahagi dénonce l'absence des FRDC pour imposer l'autorité de l'État dans cette zone. L'invité de ce journal, c'est Patrick Mutombo. Il est le coordonnateur adjoint du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Il va s'exprimer sur les enjeux pour la RDC dans le 11e sommet de haut niveau du mécanisme régional de suivi de cet accord qui devra se tenir demain samedi à Bujumbura. Bonsoir à tous. Commençons par le sud Kivu. La pluie diluvienne qui s'est abattue hier soir sur le territoire de Calais a causé la mort de plus de 100 personnes et fait des dégâts matériels incommensurables. Des maisons entières ont été emportées avec leurs habitants. Une conséquence des inondations causées par des rivières en débordement. La population du territoire de Calais affirme être débordée et crie au secours. Le point avec Emmanuel Elamejo Akabedi.
Les principaux dégâts matériels et humains sont enregistrés à Bushushu et Nyamukubi dans le groupement de Mbinga Sud. Certaines sources parlent d'environ 80% de la population de Nyamukubi qui est emportée par la rivière. Des écoles, centres de santé et autres infrastructures sont détruits. Un habitant de Calais témoigne.
Nous sommes sur les lieux, donc c'est une catastrophe qui n'a jamais été connue vraiment. Nous venons de ramasser 53 corps, mais il y a plus de 500 maisons et leurs habitants qui sont embourbés sur le lac Nyamukubi. Il y a déjà 11 corps qui venaient d'être repêchés. Il y a plus de 200 maisons et leurs habitats emportés. On est fortement débordés et on manque même comment intervenir.
L'administrateur de Calais confirme ces informations. Thomas Bakenge sollicite une intervention rapide afin de faire face à cette catastrophe aux dégâts incommensurables.
Je suis sur les lieux. On vient de ramasser 50 morts depuis hier. La route est coupée. Donc, comme la rivière a débordé, elle a amené tout ce qu'il y avait. Très grave, les dégâts très vraiment énormes, incommensurables. Donc même maintenant, là, on amène des personnes qu'on a ramassées à côté du lac.
Les maisons sont emportées, il n'y a rien. On est plus qu'à plus de 50 morts, des gars et enfants et adultes. Il y a même policiers qui on a ramené de les trouver dans la... Mais en tout cas, on a besoin de l'assistance dans l'urgence.
Emmanuel Elamejo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Toujours concernant cette catastrophe naturelle au sud Kivu, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, élu de Calais, présente ses condoléances à la population éplorée. Vital Banyu Esize appelle aussi les gouvernements provinciaux et centrales, les partenaires humanitaires à venir en aide aux populations qui ont tout perdu. On écoute Vital Banyu Esize dans cet extrait proposé par Alain Irung.
J'ai le profond regret d'annoncer la catastrophe naturelle survenue les 3 et 4 mai 2023 dans les villages de Bushushu et Minova en chefferie de Bouavu, territoire de Calais, province du Sud Kivu, à la suite des pluies diluviennes ayant entraîné le glissement des terres, causant ainsi des dégâts dévastateurs humains et matériels. Le bilan provisoire fait état de 72 morts, 97 disparus et 48 blessés à Tchabondo, 31 morts, 67 disparus et 87 blessés à Kabushungu, 45 morts, 153 disparus et 113 blessés à Nyamukubi dans le village de Bushushu, 4 morts et 3 blessés dans le village de Minova, 2965 maisons détruites complètement et des champs entiers dévastés. La route Bukavu-Goma impraticable depuis, plusieurs ponts détruits dans les groupements Mbinga-Sud, Mbinga-Nord, Bouzi et Ziralo. J'adresse mes sincères condoléances à notre nation.
Et dans la province du Kwango, dans l'ouest du pays, ce sont des érosions qui continuent de menacer les habitations à Kenge, dans le chef-lieu de la province. Au moins 21 maisons ont déjà été emportées après les pluies qui se sont abattues en début de semaine sur la ville de Kenge. D'après le maire de cette ville, Noël Kuketuka, plus de 40 maisons devront être délocalisées pour éviter le pire. Il précise qu'il faut au moins 15 millions de dollars pour mettre en exécution le projet de lutte anti-érosive à Kenge. Plus de précisions avec Irène Beaumont.
Au total, 41 têtes d'érosion menacent de faire disparaître des maisons, des routes et d'autres infrastructures de Kenge, chef-lieu de la province du Kwango. Noël Kouketouka, maire de cette ville qui le dit, précise qu'à ce jour, la situation est catastrophique. D'après lui, ces érosions constituent actuellement un casse-tête pour les habitants de la dite ville au regard des graves conséquences qu'elles provoquent. Par exemple, après les dernières pluies, plusieurs dégâts matériels occasionnés par ces érosions ont été enregistrés dans la ville, notamment des maisons des particuliers ont été complètement englouties, rapporte l'autorité urbaine qui en appelle à la responsabilité du gouvernement congolais.
Seulement des dégâts matériels, 21 maisons qui sont parties, d'autres ont été embourbées et il y a au moins jusque là 45 maisons qu'il faudra évacuer, délocaliser de là où ils vivent. Parce qu'il y a moindre pluie. Oui, toutes ces 45-là doivent aussi tomber. À présent, il faut au moins 15 millions de dollars pour venir à bout de toutes les érosions de la ville de Kenge.
Notez que pour l'instant, les premières interventions de l'Office des voiries et drainage, OVD qui constitue à créer des bassins de rétention d'eau dans cette ville, sont sans succès. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
La journée internationale de la Croix-Rouge, ça sera le lundi 8 mai prochain. Au Maniema, les volontaires de la Croix-Rouge assainissent déjà l'hôpital général de référence de Kindu. Objectif selon la Croix-Rouge Maniema, permettre aux malades de cet hôpital de respirer un air pur dans un environnement plus sain. Florence Kizalunga, reportage.
Avec à la main machette, coupe-coupe, bêche et autres outils aratoires, les volontaires de la Croix-Rouge tous les matins ont pris d'assaut l'hôpital général de Kindu pour l'assainir. Geste salué par le médecin directeur de cet hôpital, Dr Famba Ramazani.
Ils ont promis qu'ils vont passer, ils sont venus. Les avons vus assainir l'hôpital. Pour nous, ça nous marque vraiment. Et si ils pouvaient peut-être intensifier ces actes-là, passer chaque fois à l'hôpital général, par semaine, par mois, sarcler l'hôpital, en tout cas ça contribue à la bonne santé.
Le chef de division communication, engagement communautaire et redevabilité de la Croix-Rouge Maniema parle des activités liées à la semaine Croix-Rouge. Sadik Kalimbelembe.
Dans le cadre de nos activités, il a fallu vraiment que nous soyons l'hôpital général de référence pour assainir, c'est-à-dire désherber, ramasser les déchets et consorts pour que, en tout cas, les malades qui se trouvent dans cet hôpital respirent quand même l'air convenable. Nous réalisons cette activité, c'est dans le cadre de notre mission parce que nous travaillons dans la communauté, pour la communauté et avec la communauté.
Après l'hôpital général de référence de Kindu, la Croix-Rouge envisage d'assainir aussi l'hôpital général d'Alunguli. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Nous en parlions dans les titres. En Ituri, 38 personnes sont mortes au cours des combats qui se déroulent depuis mercredi entre deux groupes armés au village d'Afoyorwot dans le territoire de Mahagi. Des sources concordantes rapportent que les miliciens de la Codeco venus de Djougou ont attaqué cette localité et se sont heurtés à la résistance du groupe d'autodéfense Zaïre. La société civile de Mahagi, elle, fustige l'absence des FRDC pour imposer l'autorité de l'État dans cette zone qui est vidée de ses habitants. Isaac Raymond.
Les miliciens de la Codeco venus du territoire de Djougou se sont installés dans plusieurs villages dans les territoires de Mahagi et circulent librement avec leurs armes, affirme la société civile de cette entité. Le mercredi dernier, ils ont attaqué la localité d'Afoyorwot dans la chefferie des Angal. Certains jeunes du milieu organisé en groupe d'autodéfense ont riposté à l'attaque de cette milice. Les combats se poursuivent jusque ce vendredi matin, ajoutent des sources locales. Les bilans provisoires est de 38 morts, dont 25 miliciens de la Codeco, 11 des Zaïre et 3 civils parmi les habitants qui sont restés dans ces village. D'autres avaient fui depuis quelques mois les atrocités des groupes armés dans la région. La société civile locale justifie ces violences par l'absence des FARDC pour dissuader ces groupes armés. Son vice-président Emmanuel Abekane lance un appel au gouvernement pour le déploiement des militaires, mais aussi d'organiser des opérations militaires de grande envergure pour déloger ces miliciens des localités occupées pour permettre les retours des milliers de déplacés. Selon les porte-parole de l'armée en Ituri, les autorités militaires sont instruites pour traquer les miliciens qui se sont désengagés du processus de paix. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Pendant ce temps, l'administrateur assistant du territoire de Moba, dans la province du Tanganyika, appelle, lui, les habitants de Kasoro à regagner leur village. Ces habitants avaient fui les affrontements qui ont opposé les miliciens Toa et Bantou, faisant 2 morts et 3 blessés. Edmond Kasongola fait savoir ce vendredi à Radio Okapi. Il précise aussi qu'une délégation des autorités de Moba devra se rendre au village Kasoro demain samedi pour sensibiliser la population face à la tension qui persiste dans la zone. Des éléments FRDC y ont déjà été déployés. Le point avec Paula Munanga.
L'administrateur du territoire assistant de Moba rapporte que le 27 avril dernier, des affrontements sanglants ont opposé une milice Toa à celle de Bantou au village Kasoro dans la chefferie Kansabala, groupement Kayobwe. Edmond Kasongo souligne que la cause de ces affrontements était notamment due aux incompréhensions entre les deux protagonistes. Et il précise que le bilan était de 2 Toa tués et 3 Bantou blessés. Certaines sources à Moba signalent que ces affrontements ont provoqué le déplacement massif de la population vers d'autres villages. C'est notamment vers Maseba, Mwindi, Kirungu et Mpala. Le gouvernement du Tanganyika a dépêché des militaires FARDC dans la zone pour maintenir la sécurité. L'administrateur du territoire assistant de Moba lance un appel aux habitants de regagner leur village. Edmond Kasongo annonce l'arrivée ce samedi au village Kasoro situé à 60 km de Moba centre d'une délégation des autorités du territoire de Moba pour se rendre compte de ce qui s'est passé et sensibiliser la population à la paix. Kalemi Pole Munanga, Radio Okapi.
Arrivée hier à Lubumbashi d'une délégation constituée de plusieurs membres du gouvernement en provenance de l'Afrique australe, cette délégation est allée chercher, selon elle, les voies et moyens pour approvisionner notamment le Haut-Katanga en farine de maïs qui est l'aliment de base de la région. Plus de détails avec le chef de la délégation, le vice-premier ministre et ministre de l'économie, à sa descente de l'avion, Vital Kamere, est au micro de nos confrères de la presse du gouvernorat du Haut-Katanga.
La mission la plus importante, c'est celle qui va se passer ici au Katanga. À l'étranger, nous sommes allés chercher une solution de dépannage pour fournir de la farine au Katanga, mais aussi des semences et des fertilisants, parce que nous estimons que la diversité dans la production, ou la diversification de la production, est le secret pour résoudre le problème, non seulement du Katanga, mais de l'ensemble du pays. La Zambie n'a pas beaucoup de terres plus que le Katanga, mais c'est un paradoxe que nous allions chercher de farine en Zambie. Donc nous allons étudier les causes qui font que les producteurs de Katanga ne produisent pas autant qu'il faut. Ils ne sont pas de mauvaise foi. Nous pensons que du côté de l'État, nous avons aussi des efforts à faire, des mesures d'allègement, par exemple. Mais la mission s'est bien passée de l'autre côté. Mais la mission la plus importante, c'est ici où nous allons parler avec les Katangais, les Congolais, pour résoudre nos problèmes congolais.
Grogne sociale à l'EPST et l'ESU, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a instruit en urgence les ministres du Budget et des Finances en compagnie de ceux de l'enseignement primaire et secondaire et de l'enseignement supérieur et universitaire pour des solutions idoines aux revendications des enseignants et des professeurs d'université. C'était lors d'une réunion hier ayant pour objectif de décanter cette grogne. Suivez le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, dans cet extrait que nous propose Billy Van Lutumba.
Nous venons donc de faire un tour de réseau autour du Premier ministre et il a été décidé qu'un cadre de concertation permanent urgent dès demain autour du ministre d'État, ministre du Budget, pour que déjà tous nos services techniques, DINACOP, inspection ainsi que secrétariat général, accompagnés de leaders syndicaux, nous puissions déjà étudier comment nous pouvons déjà prioritairement indiquer ce qui peut être dégagé pour essayer de régler les problèmes urgents et tout le reste rentrer dans le fonctionnement normal et assurer la paie régulière de tout ce qui a été convenu dans la mesure du possible.
Pour ce qui est des professeurs d'université, le ministère des Finances s'active, d'après Moïne Donzangui, de l'enseignement supérieur et universitaire pour décaisser les fonds pour le mois d'avril.
Actualité internationale.
Le COVID-19 ne représente plus une urgence sanitaire mondiale. Déclaration ce vendredi de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, ouvrant la voie à la fin d'une pandémie qui a fait au moins 20 millions de morts dans le monde et fortement perturbé l'économie mondiale. Sachez que le comité d'urgence de l'OMS avait décrété l'urgence de santé publique de portée internationale pour le COVID-19 le 20 janvier 2020. Ces statuts permettent d'attirer l'attention de la communauté internationale sur une menace sanitaire tout en renforçant la collaboration sur la recherche sur les vaccins et les traitements. La levée de ces statuts est un signe de progrès, mais le COVID-19 est toujours présent, même s'il ne représente plus une menace, a affirmé l'OMS.
L'invité.
La présidence tournante du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba vient de passer à la République du Burundi. Après la République du Congo et l'Ouganda, la RDC vient de diriger pendant une année cette institution régionale qui a vu le jour il y a de cela 10 ans. Quels sont les enjeux de l'heure pour la RDC dans ses assises de Bujumbura au Burundi, à savoir le 11e sommet de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba qui devra se tenir demain samedi. Patrick Mutomboye, le coordonnateur adjoint du mécanisme national de suivi de cet accord cadre, une structure qui émane de la présidence de la République. Il répond au micro de Fiston Goma.
Patrick Mutombo, bonjour.
Bonjour.
Nous vous retrouvons à Bujumbura, membre de la délégation congolaise. Quels sont les enjeux de la RDC dans ses assises de Bujumbura sur le plan paix, sécurité et coopération?
C'est une réunion statutaire qui rassemble les chefs d'État des pays signataires de l'accord cadre pour passer en revue les récents développements dans la région des Grands Lacs. Et la particularité, c'est que jusque-là, c'était le président de la République démocratique du Congo, Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait assuré la présidence tournante du mécanisme régional des suivis. Et nous sommes ici à Bujumbura pour qu'il puisse passer le relais à son homologue burundais, Evariste Ndayishimiye. La République démocratique du Congo, conduite par le ministre de l'intégration régionale, est venue dans cette réunion pour passer le message de la RDC, d'abord au sujet de ce que la RDC a dû fournir comme effort pour honorer ses engagements dans cet accord cadre, et des deux, pour faire écho de la revitalisation de cet accord. C'est-à-dire qu'il faut que nous puissions voir pourquoi les autres États ne l'appliquent pas de bonne foi. Et puis, nous sommes partants pour que cette revitalisation se fasse avec une évaluation préalable. L'accord cadre a été signé depuis le 24 février 2013, donc que nous sachions 10 ans après comment est-ce que nous avons marché. Et pourquoi 10 ans après, il y a toujours la récurrence de la belligérance régionale. Et puis, comment comprendre, pendant que la République démocratique du Congo assurait la présidence tournante du mécanisme régional de suivi, et c'est ce moment-là que le Rwanda, qui est un pays membre signataire de cet accord par son président, agresse le président du mécanisme régional de suivi, qui est la République démocratique du Congo, violant, énervant l'engagement régional numéro 3 qui interdit au pays de soutenir des groupes armés pour déstabiliser les pays voisins. Nous sommes venus remettre la pendule à l'heure et ça a été fait avec brio parce que nous avons passé le message de la République démocratique du Congo dans cette réunion. Nous avons commencé d'abord avec la réunion des experts au niveau du comité d'appui technique. Nous sommes aujourd'hui dans la réunion ministérielle qui prépare les documents pour le sommet des chefs d'État qui aura lieu le 6 mai.
Est-ce que la RDC peut en profiter pour peser de tout son poids afin que les groupes armés étrangers puissent être rapatriés?
Effectivement, nous avons parlé du DDR régional. Et ce DDR régional s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation du groupe de contact et de coordination, dont la cellule opérationnelle est basée à Goma, chez nous, dans le Nord Kivu. Ce groupe de contact et de coordination est une émanation de la décision des chefs d'État qui s'étaient réunis déjà à Kampala lors de la 9e réunion du mécanisme régional de suivi le 8 octobre 2018. Et donc, depuis lors, la République démocratique du Congo, Kinshasa, donc, a abrité la première réunion des patrons des services de sécurité et des renseignements de 5 pays, à savoir le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie et nous, la République démocratique du Congo. Donc, les 5 pays concernés par la zone de conflit ont délégué chacun des patrons des services de renseignements militaires et civils pour réfléchir sur un plan d'opérationnalisation du groupe de contact et de coordination. Ça a été fait, ça a évolué, et la République démocratique du Congo a donné son territoire national pour abriter cette cellule opérationnelle, parce que c'est elle qui est la première concernée. Et au moment où je vous parle, nous avons commencé à entrevoir très prochainement le rapatriement de certains raids Tabara burundais qui vont accepter de rentrer chez eux et de déposer les armes. Nous nous sommes engagés au cours de cette réunion pour accélérer ce processus. Les FDLR rwandais, le Rwanda devra aussi tendre la main à ces FDLR pour que ceux-ci puissent rentrer dans leur pays. Et nous n'en sommes pas la première expérience. Ça va faire, moi, personnellement, 20 ans que j'ai rapatrié les FDLR. Je ne pouvais pas imaginer qu'après avoir rapatrié le tout premier FDLR en 2000, civile que 23 ans après, j'en serai moi personnellement à parler encore des FDLR. Et les FDLR qui avaient 30 ans en 94, faites les calculs si c'est encore des combattants qui peuvent aller inquiéter le Rwanda. Donc, cette histoire-là des FDLR, comme l'avait dit le président de la République Tshisekedi Tshilombo, du haut de la tribune des Nations Unies, ce n'est qu'un prétexte fallacieux.
Patrick Mutombo, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, Radio Kapi.